n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, dehors la lune est cachée sous des flocons de neige et pelle, et la neige tombe, enfin, enfin de la neige, enfin un véritable hiver. On a même eu du soleil aujourd'hui, mais en tout cas, ce soir, la lune, elle est sur 93.8 MHz, on prend Radio Zone. Dans quelques instants, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, suivies par les coups de cœur de Marjolaine. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, son femme Radio Zone, nos nouvelles. Les enfants de la guerre du Golfe. Depuis plusieurs mois, la Grande-Bretagne est confrontée à l'émergence de cas de plus en plus nombreux d'anomalies physiques ou mentales chez des bébés nés de parents ayant participé à l'opération Desert Storm, tempête du désert. Vous vous souvenez, c'était la guerre contre l'Irak. À ce jour, plus de 70 enfants ont été recensés avec différents problèmes, allant de difformités diverses à des infections respiratoires, nerveuses ou fonctionnelles, cancer, maladies cardiaques, etc. À eux seuls, ces enfants de la guerre du Golfe ont ainsi contraint le gouvernement britannique à rouvrir le dossier délicat du syndrome de la guerre du Golfe. Depuis leur retour en 1991 du Koweït et d'Arabie Saoudite, plusieurs milliers de soldats, en majorité américains et britanniques, se sont plaints de multiples symptômes, perte de mémoire, fatigue chronique, affection des bronches, atrophie des muscles, mais aussi les semis ou cancers. Très vite, certains experts ont alors montré du doigt les multiples vaccins et pilules administrées aux soldats pour parer à toute utilisation de l'arme chimique par Saddam Hussein. On peut par exemple déjà dire que Londres ne disposait pas d'une licence pour administrer ces fameuses pilules contre la guerre chimique, les NAPS. Ces pilules comprenant du bromure et sont utilisées jusqu'à là pour traiter des patients atteints de certaines infections nerveuses. Elles n'avaient jamais été administrées à des personnes en bonne santé et surtout à une telle échelle et à une telle quantité. La preuve, une des preuves pourrait être que la France, qui n'a pas distribué ce type de pilules, n'est pour l'instant pas confrontée à ce type de problème. En août 1995, toutefois, le Pentagone assurait qu'il n'existait pas de preuve d'un quelconque syndrome lié aux vétérans. Au ministère de la Défense à Londres, on s'en tenait à la même ligne. Mais le ministère vient de faire marche arrière. Mardi dernier, il a annoncé la mise en place d'une enquête et de plusieurs études épidémiologiques. Pour nombre de vétérans, l'ouverture d'une enquête signifie que le gouvernement reconnaît qu'il y a bien eu problème. En Égypte, coup dur pour les islamistes. Le Parlement a adopté la semaine dernière une loi visant à les empêcher d'accuser d'apostasie tout écrivain, professeur ou autre libre penseur qui s'éloignerait un peu trop du dogme. En adoptant la semaine dernière une loi visant à empêcher d'accuser d'apostasie et de traîner en justice tous ceux qui semblent s'éloigner du dogme, le Parlement a tenté de mettre un point final à l'avalanche de procès déclenchés depuis quelques mois par les avocats islamistes, commandités presque tous par le cheikh Youssef El-Badri. Un chèque prolixe aux ambitions douteuses. Véritable inquisiteur, Al-Badri est à l'origine d'une quarantaine de procès contre des intellectuels, dont le plus retentissant contre le professeur d'université Nasr Abu Zayd, qui s'est achevé par un jugement de divorce que ne voulait ni lui ni elle, car son épouse musulmane ne pouvait demeurer unie à un apostat. Sur sa lancée, le cheikh a annoncé qu'il avait une quarantaine de nouveaux dossiers prêts à être soumis à la justice, dont celui de Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, pour un ouvrage paru en 1959 et jugé blasphématoire par les islamistes. Le cheikh a acquis sa notoriété en s'appuyant sur le principe juridique islamiste de la hisba, selon lequel tout individu peut recourir à la justice pour défendre les valeurs islamiques même s'il n'est pas personnellement lésé. C'est précisément ce concept ambigu et controversé qui remonte au premier temps de l'islam que vient de réglementer le Parlement égyptien. Le Mozambique fait face à ses enfants soldats. En 1994, deux ans après la signature des accords de paix, la moitié des enfants soldats du Mozambique se retrouvent encore dans des bases militaires. À l'époque, kidnappés au cours de raids dans leur village par les rebelles de la RENAMO, mais aussi par l'armée gouvernementale, 1700 enfants ont été arrachés à leur famille pendant des années. Le plus chanceux était enrôlé dans l'armée comme cuisinier ou domestique. Les autres devenaient soldats. Pour s'assurer leur loyauté et éviter qu'ils ne rejoignent leur village, on les a obligés aux pires atrocités. Certains ont été forcés de tuer leurs parents et de commettre des atrocités. À la libération, les soldats des deux camps ont reçu une prime de démobilisation de la part de l'ONU, seule façon de les inciter à déposer les armes. Mais les enfants n'ont rien retouché, l'ONU se refusant à reconnaître à des mineurs le statut de soldat. L'UNICEF a donc pris le parti de les rapatrier dans leur village où souvent ils ont exercé la terreur. Varsovie se mobilise contre le marché du sexe. L'association La Strada, association fondée aux Pays-Bas, financée par un programme européen, a mis en place à Varsovie un programme de prévention et d'aide aux femmes tombées dans les réseaux de la prostitution à l'étranger. C'est parti du fait que sur 155 victimes recensées par la police aux Pays-Bas en 1995, 108 venaient de l'Europe de l'Est. Le renversement de tendance est apparu en 1991, c'est-à-dire deux ans après la chute du mur, souligne une des organisatrices, une des fondatrices de l'association. La Pologne est en train de devenir une plaque tournante pour les souteneurs qui recrutent en Ukraine et font travailler les filles en Pologne, puis les envoient en Allemagne et aux Pays-Bas, d'où l'importance d'une conscientisation en Pologne même. Les histoires rapportées sur les dépliants qui sont distribués dans les lycées et qui le seront bientôt à la sortie des églises sont souvent toujours les mêmes. C'est l'histoire de femmes tombées au chômage qui voient une petite annonce qui propose un emploi de serveuse à l'étranger. Arrivée sur place, on lui prend son passeport, son argent, on l'oblige à faire du striptease et à coucher avec les clients. Avec la brusque chute du niveau de vie qui a accompagné les réformes lancées au début des années 90, à l'Est, de nombreuses jeunes femmes, certaines parlent de plus de 3000 par an, ont commencé à chercher du travail à l'Ouest. Naïves, provenant de milieux défavorisés, attirées par le mythe de l'Occident, elles se sont souvent retrouvées dans l'engrenage de la prostitution. Les réseaux internationaux du crime organisé ont rapidement pris le contrôle de ce business lucratif et moins risqué que le trafic d'armes et le vol de voitures, ou même la drogue. Le programme de prévention de La Strada a fourni une aide matérielle, juridique aux femmes qui reviennent en Pologne. Certaines, malgré les menaces et le mépris de leur entourage, ont eu le courage de porter plainte. Depuis mai 1994, le procès de trois hommes accusés d'avoir contraint à la prostitution 13 femmes se tient dans une petite ville de Pologne. Deux autres procès sont actuellement en cours, où le principal accusé, un ancien patron d'agence de Colger de la région, aurait depuis deux ans envoyé plus de 500 jeunes polonaises dans des maisons closes en Allemagne. Le problème ne touche pas malheureusement que les pays de l'Est, l'Amérique latine, où le sexe est devenu l'un des commerces les plus lucratifs. C'est le cas par exemple en Argentine. En trois ans, le sexe et tout le négoce qui s'y rattache sont devenus la principale activité économique informelle de l'Argentine. Le chiffre d'affaires atteint 100 400 millions de dollars par année, une quantité trois fois supérieure au bilan de l'industrie du ciment par exemple. Et puis en Asie, c'est pas beaucoup mieux. 1,5 million de femmes asiatiques qui travaillent temporairement dans les pays du Golfe en particulier sont souvent sujettes à des multiples abus. C'est ce que vient de publier un rapport du Bureau international du travail. Les pays d'où elles proviennent sont principalement l'Indonésie, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande. Ceux où elles partent travailler, c'est l'Arabie Saoudite, le Koweït, Hong Kong, le Japon, Taïwan, Singapour, la Malaisie et le sultanat de Brunei. Environ 800 000 femmes asiatiques quittent annuellement leur pays pour aller travailler et ce nombre augmente régulièrement. Et elles travaillent dans des conditions souvent très très dures avec une forte violence. Où elles subissent une très forte violence. En Birmanie, la junte birmane a décrété que 1996 serait l'année du tourisme et pour créer des hôtels, elle met des milliers de Birmans aux travaux forcés. Derrière les pagodes dorées, le travail forcé, le déplacement de population, au moment où le salon des vacances a lieu à Genève, cette association suisse lance un appel à la raison et aux voyageurs qui se laisseraient séduire par les paysages somptueux de la Birmanie. Pour réaliser l'année du tourisme, qu'il a décrété haut et fort, la junte birmane n'hésite pas à mettre des dizaines de milliers de personnes aux travaux forcés, dans des conditions insoutenables et sans aucun salaire en contrepartie. Des vastes rafles pour recruter la main-d'œuvre indispensable à ce projet pharaonique sont mises sur pied au nom du service national. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. Mexico va abriter un tribunal contre le travail des enfants. Des syndicalistes et des citoyens d'une cinquantaine de pays vont dresser un tribunal international contre le travail des enfants et le travail forcé. Ça aura lieu à Mexico du 22 au 24 mars. L'UNICEF estime le nombre d'enfants contraints au travail sur la planète à quelque 200 millions et 15 millions d'entre eux sont réduits à l'esclavage. Une situation qui tend à s'aggraver, bien que d'un autre côté, 800 millions d'adultes soient demandeurs d'emploi. Ce tribunal veut dénoncer par des cas concrets des pays et des entreprises qui utilisent des enfants. C'est une manière de s'associer à l'action des organisations qui dépendent de l'ONU, comme l'UNICEF ou l'OIT, qui déjà proposent une législation contre le travail des enfants. Mais par ce tribunal, on veut former une forme d'action complémentaire pour faire réagir les opinions publiques à travers le monde et contrebalancer l'impossibilité en fait d'appliquer les peines qui sont décidées par les organisations gouvernementales. Le comité brésilien a par exemple transmis à la presse locale des informations sur l'exploitation d'enfants dans l'industrie automobile, une campagne de dénonciation qui a poussé la direction de Volkswagen au Brésil à de commencer une étude dans l'objectif d'éliminer le travail des enfants de toute la chaîne de production jusqu'à la vente des véhicules. Bien sûr, ces actions doivent se faire avec beaucoup de précautions, puisqu'une interdiction brutale peut avoir des effets pervers. Beaucoup d'enfants, finalement, en travaillant, permettent de faire vivre une famille et on a peur que l'interdiction du travail augmente la pauvreté des enfants et les enfants dans la rue. En tout cas, un débat aura lieu sur ce tribunal le jeudi 8 février à 20h à la salle 206 de l'Université 2, rue Général Dufour. En Angleterre, des millions d'embryons attendent au congélateur leur prochaine destruction. Fruits de la fécondation in vitro, ils sont stockés dans le froid, dans des laboratoires britanniques. Beaucoup d'entre eux approchent de leur date limite d'utilisation et ne peuvent pas être adoptés. Car la loi britannique ordonne la destruction des embryons après 5 ans, au moins que les parents ne demandent qu'ils soient conservés encore plus ou qu'ils autorisent un autre couple à les adopter. On estime à 52 000 le nombre actuel d'embryons congelés en Grande-Bretagne. 3000 vont donc arriver à date d'expiration et vont être détruits. En tout cas, ils semblent avoir été abandonnés par leurs parents puisque les cliniques ont perdu contact avec les parents et doivent donc, selon la loi, détruire ces embryons. Bien sûr, tout cela a provoqué un vaste débat et un député conservateur, David Alton, conservateur opposé à l'avortement, a proposé que ces embryons abandonnés soient offerts pour adoption aux couples sans enfants qui ne peuvent procéder à la fécondation in vitro. Monsieur Alton a même demandé que ces embryons orphelins soient placés sous tutelle judiciaire, ce qui créerait un précédent dangereux pour le droit à l'avortement en reconnaissant indirectement au fœtus une existence juridique, dénonce le quotidien de Independent. Toujours en Angleterre, le quotidien The Guardian révèle les conditions d'accouchement terribles d'une jeune détenue. Elle a accouché donc durant sa détention et c'est les conditions qu'elle raconte ont créé la polémique. Son témoignage est remonté jusqu'au gouvernement qui pour l'instant observe une prudente neutralité. Elle a été conduite à la maternité menottes aux mains, attachée sur son lit. Elle a accouché d'une petite fille sous l'œil inquisiteur d'un gardien et d'une gardienne de prison. Et puis en France, une dame au quai des Orfèvres, à 46 ans, Martine Monteil, est la première femme à prendre en main la brigade criminelle, la fameuse crime du quai des Orfèvres. On n'arrête pas le progrès, qui sait, peut-être que les polars vont s'améliorer. En Suisse, on l'a dit et redit, le 7 février 1971, le droit de vote était enfin accordé aux femmes, à toutes les femmes suisses. C'est donc exactement 25 ans que les Suissesses ont été reconnues comme des citoyennes à part entière au niveau fédéral. Le 7 février 1971, les électeurs mâles leur accordaient enfin le droit de vote que connaissaient tous les pays d'Europe, à l'exception du Liechtenstein. À l'époque, le suffrage féminin fêtait ses 102 ans aux États-Unis et ses trois quarts de siècle en Finlande. À cause même de la démocratie directe, la longue marche des Suissesses vers l'égalité civique aura été une saga interminable, puisque depuis le siècle passé, des initiatives ont essayé de faire passer cette revendication du droit de vote aux femmes qui a rencontré une opposition farouche. Voici quelques-uns des arguments qui avaient été mis en avant à l'époque. Par exemple, un paysan suissois expliquait qu'un mari dont l'épouse est élue serait humilié, condamné à faire la cuisine et que surtout qu'en raison de la pudeur des femmes enceintes, qui bien sûr ne peuvent pas sortir, les citadines voteraient davantage que les paysannes qui font plus d'enfants. Un Valaisan, lui, s'inquiétait. Les citoyennes seraient enclines à l'extrémisme et risqueraient même de sortir sans la permission du mari pour aller militer. Et selon même un élu médecin, une anatomie infantile et un cerveau plus petit prouvent que les femmes sont plus bêtes que les hommes. Quant à Lucerne, elles ne sont pas plus intelligentes, disent-ils, mais donc leur vote n'améliorerait pas la démocratie. Il ne sert à rien. Il faut noter qu'à l'époque, la gauche n'était pas non plus toujours prête à accorder le droit de vote aux femmes sous prétexte que les femmes étaient plus réactionnaires et donc feraient pencher la balance à droite. Eh bien, après 25 ans de droit de vote des femmes, on peut dire que ces prévisions étaient fausses. Si sur l'échiquier politique droite-gauche, les femmes se répartissent plus ou moins également, en tout cas au travers de leur votation, elles ont toujours montré une sensibilité beaucoup plus forte à tous les problèmes sociaux et écologistes, puisque toutes les initiatives, par exemple sur le nucléaire, elles ont été beaucoup plus que les hommes à voter oui. Elles sont plus sensibles au social. Elles ont voté toujours pour les assurances. Elles sont plus antimilitaristes. Elles ont voté plus nombreuses contre l'armée. Plus modernes en matière de mœurs, l'égalité des sexes, par exemple tout le renouvellement du mariage. Par contre, elles n'aiment pas les impôts. Et puis une surprise qui vient de France, les citadines font plus d'enfants que celles qui vivent à la campagne. Vous voyez, même ça a démenti les propos des Suissois réactionnaires. C'est ce que révèle une enquête de l'INSEE. À noter qu'à Paris, la fécondité reste basse et c'est en banlieue qu'elle augmente. Autre constat, les Françaises ont leur premier enfant de plus en plus tard, entre 28 et 30 ans. En Suisse, les médecins sont maintenant de plus en plus confrontés au problème des mutilations sexuelles. Sont-ils prêts à faire face à ce problème? C'est ce que s'est demandé une étudiante de l'école de l'Institut d'études sociales, Mercecato Carbo-Budry, qui vient de publier un petit recueil, Le sexe effacé, punir ou prévenir les mutilations sexuelles. En Suisse, médecins, sages-femmes et infirmières sont toujours plus souvent confrontés à des patientes en provenant de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Soudan, Somalie, où l'excision et l'infibulation sont généralisées. Comment ces personnes réagissent-elles? Un effort de prévention est-il entrepris en direction de ces femmes et de leurs enfants? Une étudiante donc, de l'Institut d'études sociales s'est penchée sur ces questions. Première constatation, la prise en charge d'une femme qui présente des mutilations sexuelles n'est plus une rareté. Presque tous les gynécologues interrogés ont fait face à ce problème. Quant à la polyclinique, elle a enregistré une cinquantaine de cas dans les dernières années, mais aucune des personnes n'avait reçu une formation pour faire face à ce problème, bien qu'elle se soit informée. Par exemple, les problèmes qui peuvent se poser, c'est quand une jeune femme installée en Suisse depuis quelques années demande à être décousue, ou au contraire, lorsqu'une femme, après un accouchement, supplie son médecin de la recoudre comme avant. Genève, en tout cas, une association spécialisée dans l'accueil des réfugiés, Camarada, fait une place à la prévention des mutilations sexuelles dans le cadre d'un cours général d'éducation à la santé. Cette approche permet, selon ses promotrices, d'adapter l'information aux demandes et aux préoccupations des intéressés plutôt que de les agresser avec un discours normalisant. Et pour terminer, une histoire de chansons et de meurtres, la chanson qui tue. Il s'agit d'une chanson d'un merengue de Saint-Domingo, El Venao. C'est un grand tube dont le succès a débordé les frontières dominicaines, mais qui est accusé d'avoir provoqué des dizaines de morts violentes, meurtres ou suicides. Pourtant, c'est un rythme très chantant, très doux, le merengue, plein de douceur et de chaleur tropicale. Il s'agit donc de plus d'un demi-million de disques qui ont déjà été vendus en République dominicaine, mais aussi à Puerto Rico, Mexique, Venezuela et dans toute la communauté latino des États-Unis. Son titre, le venao, ça veut dire le cerf, l'animal porteur de bois. Impressionnant, le venao, c'est donc le mari trompé, celui qui se fait planter des cornes qu'il ne peut dissimuler. Les paroles, aussi simples que la musique, brodent autour du thème de l'infidélité, de la jalousie, ce qui n'est pas très rare dans la musique latino. Ce qui est plus rare, c'est que pour une fois, un homme chante que sa femme le trompe. Et c'est donc la première fois la personne trompée est un homme, ce qui n'est pas un détail dans ces sociétés latines machistes où l'infidélité masculine est acceptée, voire glorifiée, alors que la réciproque demeure sévèrement condamnée. Il ne se passe pas de semaine sans qu'un drame de la jalousie ne fasse ressurgir El Venao. Ainsi, parce que ses voisins fredonnaient cette chanson sur son passage, un homme dans le sud-ouest de la République dominicaine a décapité d'un coup de machette sa femme. Lorsqu'un inconnu lui a siffloté au téléphone l'air fatal, un ingénieur s'est précipité armé d'un pistolet à l'hôpital où travaille sa femme. Le drame n'a été évité que de justesse. À Porto Rico, la chanson serait à l'origine directe ou indirecte de 4 crimes passionnels, selon le chef de la police. Pour terminer, tout à fait, une histoire suisse. Eh oui, pourquoi pas. Vous savez que le département militaire fédéral est très agité ces derniers temps. Vous me direz qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ça n'empêche pas d'y penser. Et suite à l'affaire Niffenegger, d'autres affaires secouent ce département. Et oui, des promotions. En effet, le lieutenant bernois de 35 ans vient d'être promu capitaine. Celui-ci, malheureusement, avait été condamné en 1993 pour injure antisémite. Il avait été condamné à 5 jours de prison parce qu'il avait injurié un juif. Quant à l'officier condamné, vous savez, celui qui a tué une recrue en le forçant à faire une marche et qui a été condamné à 20 jours de prison avec sursis, que s'est-il passé? Eh bien, lui aussi, il a été promu capitaine peu après les faits. Voilà, c'est terminé. Sur la morale de cette histoire que je vous laisse, sur laquelle je vous laisse réfléchir, eh bien, que vous dire que Marjolaine prépare son cœur et qu'il y a beaucoup de choses dedans ce soir. Quant à moi, je vous dis au revoir à la semaine prochaine.
Comme une fugue s'enfuit, comme une pierre polie, une plume se marie sur une feuille blanche nuit. Insomnie. Cette plaie, y a trop de dégâts à cet endroit. Cendrier, petite fumée, univers calligraphié, terros fatigué. Cette plaie, les mots ne sont pas morts, ils saignent encore. Comme l'encre noire, comme le hasard, comme une lettre dans la mémoire. Comme une pierre polie, une plume se marie sur une feuille blanche nuit.